Contre toute attente. Contre toute attente, une émission présentée par Francis. Bienvenue et salut à tous. Le 4 avril 1968, Martin Luther King mourait assassiné à Memphis, aux États-Unis. Incontestablement, ce pasteur baptiste est une figure fascinante du christianisme du XXe siècle. Aujourd'hui, des chrétiens, comme des athées, trouvent dans l'action de ce noir américain matière à réflexion pour lutter contre l'exclusion et contre la discrimination raciale. Nous vous proposerons de découvrir, dans ce deuxième contre toute attente dédié à cette personnalité, en quoi s'enracine la pensée et l'action de Martin Luther King, puis d'aller à la rencontre de sa manière de concevoir Dieu et son engagement pour plus de justice dans la société. Cette démarche, nous la ferons en compagnie de Serge Mola, pasteur et auteur du livre « Les idées noires de Martin Luther King » paru aux éditions Labor et Fides à Genève. Serge Mola répond aux questions de Serge Carrel. Martin Luther King était un prédicateur très écouté. Le 27 août 1967, à l'église baptiste de Mount Pisgah à Chicago, c'était peu avant son assassinat, le pasteur King livre à son auditoire les raisons de son engagement pour l'égalité entre noirs et blancs aux États-Unis. Une dizaine d'années plus tôt, pendant le boycott des bus à Montgomery, il a fait une expérience de la présence de Dieu, une expérience qui résonne comme une sorte d'appel à être le porte-parole des sans-voix.
I never will forget one night very late. It was around midnight. And you can have some strange experiences at
Mais une nuit, je ne l'oublierai jamais. Il était tard, aux environs de minuit. Et on peut faire d'étranges expériences à minuit. J'avais été retenu par le comité d'organisation.
And I came home.
Quand je rentrais, ma femme était couchée et je tombais de fatigue dans mon lit, pensant prendre un peu de repos avant de reprendre le travail le lendemain, et c'est alors que le téléphone sonna.
On the other end was an ugly voice.
Je pris l'appareil et j'entendis une horrible voix qui disait en substance: écoute, sale nègre, on en a marre de toi et de ton merdier. Si dans 3 jours tu n'as pas quitté cette ville, on te fait sauter la cervelle et ta maison avec. J'avais souvent entendu cela avant, mais je ne sais pas pourquoi. Cette fois-ci, ces paroles m'atteignirent. Je me retournais. J'essayais de dormir, mais en vain. J'étais atterré, égaré. Je me levais pour aller à la cuisine, me faire un peu de café, pensant que cela me calmerait un peu. Je me mis alors à réfléchir à beaucoup de choses, à la théologie et à la philosophie que je venais d'étudier à l'université, en essayant de trouver des raisons philosophiques et théologiques à l'existence et à la réalité du mal et du péché. Mais la réponse ne vint pas tout à fait de ce côté-là. Assis à cette table, Je pensais à la belle petite fille née un mois auparavant. Nous avons 4 enfants maintenant, mais à l'époque, nous n'en avions qu'un. Soir après soir, j'accourais à la maison pour admirer son doux petit sourire. Maintenant, assis à cette table, je pensais à cette petite fille et je me disais qu'elle pouvait m'être enlevée d'un instant à l'autre. Je pensais à ma femme aussi, si dévouée, si consacrée, qui dormait là, à côté. Elle aussi pouvait m'être enlevée. Ou peut-être, est-ce moi qui allais lui être enlevée? Et tout cela, maintenant, je ne pouvais plus le supporter. J'étais au bout du rouleau. Et quelque chose alors me dit, tu ne peux pas appeler ton père ce soir. Il est à Atlanta, à 175 kilomètres d'ici. Tu ne peux même pas appeler ta mère. Tu ne peux plus qu'en appeler à ce quelque chose, à cette personne dont ton père t'a maintes fois parlé. Cette force qui peut ouvrir un chemin là où il n'y a pas d'issue. Je me rendis compte alors qu'il fallait que la religion devienne pour moi une réalité et que je connaisse Dieu pour moi-même. J'inclinai la tête devant cette tasse de café, ça je ne l'oublierai jamais. Et je me mis à prier, je priais à haute voix cette nuit-là et je dis « Seigneur, me voici », essayant de faire ce qu'il faut faire. Je pense que j'ai raison. Je pense que la cause que nous représentons est juste. Mais Seigneur, je dois avouer qu'aujourd'hui je suis faible. Je suis en train de craquer, de perdre courage. Je ne peux pourtant pas laisser les gens me voir ainsi, parce que s'ils me voient faible et découragé, eux aussi vont commencer à faiblir. Interviens, Seigneur. Donne-moi la force nécessaire pour que je puisse, demain matin, me présenter devant le comité exécutif avec le sourire. À cet instant, j'entends une voix intérieure me dire « Martin Luther, lève-toi. Lève-toi pour le droit. Lève-toi pour la justice. Lève-toi pour la vérité et je serai avec toi, même jusqu'à la fin du monde. » Oui, je vous le dis, j'ai vu l'éclair, j'ai entendu le grondement du tonnerre, j'ai entendu les forces du mal se jeter sur moi, essayant de s'emparer de mon âme. Mais j'ai entendu la voix de Jésus me disant de poursuivre le combat. Il promit de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul. Non, jamais seul, jamais seul.
Serge Mola, on vient d'entendre là quelques éléments d'une prédication de Martin Luther King. Alors, il est un élément auquel vous tenez beaucoup et que vous tenez à rappeler, que vous rappelez notamment dans votre livre. C'est le fait que King était, à votre sens, d'abord, avant d'être un disciple de Gandhi, un prédicateur de l'Évangile.
Oui, c'est-à-dire que dans toute son enfance, il baigne dans l'Église noire. Avec son grand-père qui est pasteur, avec son père qui est pasteur, avec son frère et sa sœur, il fréquente depuis gosse l'Église noire, les chants, les prières, l'exaltation, le rythme, et cela l'habite. Ensuite, bien sûr, il effectue ses études plus dans le nord, il découvre la théologie et son caractère intellectuel. Il n'empêche que ses racines sont bien d'abord celles de l'Église noire et de cette tradition-là, bien avant Gandhi et toute la réflexion sur la non-violence que Gandhi apportera.
On a l'impression pendant ses années d'études que Martin Luther King est un peu critique à l'endroit de son héritage noir. Il prend quelques distances, il critique un peu le côté très émotionnel des services, des cultes, de l'Église de son enfance.
Sans aucun doute. Il aura des débats avec son père sur comment faire vibrer une assemblée, et il y a des trucs presque pour cela et qui lui paraissent excessifs et manipulateurs, alors qu'il a retenu de ses études d'abord le sérieux, l'exégèse, une sorte de dogmatique. Mais il en viendra peu à peu et au fond très vite, à partir du moment où le mouvement se commence avec le boycott de Montgomery, il en vient très vite à retourner à ses racines.
Alors, il y a quelque chose d'assez surprenant là dans la prédication que nous venons d'entendre. Cette prédication date de 1967 et elle renferme l'évocation de ce qu'on appelle la kitchen experience, l'expérience de la cuisine. Qu'est-ce que c'est que cette expérience que vit Martin Luther King bien plus tôt dans les années 50?
Il prononce donc la prédication que nous venons d'entendre en 67 sur un texte de Luc, mais au cœur de cette prédication, il y met un témoignage. Il parle en je. Et ce témoignage, il est intéressant qu'il revienne alors même que les menaces, les pressions sont énormes. Elles sont au fond analogues à celles qu'il découvre à peine le boycott est lancé en 55. Et ce témoignage remonte à janvier 56, où, de retour d'une soirée en église, où justement il a, avec d'autres, tenté de reprendre courage et de réencourager celles et ceux qui participent au boycott naissant. Revenu chez lui, le téléphone sonne, les menaces se font une fois encore entendre et il n'en peut plus. Alors, dit-il, il a essayé de mettre un peu d'ordre dans tout cela, d'expliquer le mal, d'expliquer la souffrance, d'expliquer les vives oppositions, et les explications ne sont pas suffisantes pour dissiper son angoisse. Et il en revient alors à ce geste si simple, au fond, de la prière, et traverse à ce moment-là, en tout cas, le témoignage en fait écho, une sorte d'expérience mystique où il a l'impression qu'il est appelé à mener un combat pour la justice. Et ce qui est peut-être encore beaucoup plus important, c'est que s'il mène ce combat, il ne sera jamais seul. Et il est intéressant que dans la façon dont il raconte les choses, ce sont les mots des vieux spirituels qui viennent sur ses lèvres pour évoquer cette expérience.
On a l'impression aussi, pour reprendre, disons, une terminologie un peu biblique, qu'il vit une sorte de vocation prophétique.
Tout à fait, tout à fait. King se sent investi d'une mission que désormais, à laquelle il veut répondre, et pour vivre, pour répondre à cette mission, il reçoit les forces.
Alors vous venez de nous dire que King fait, de manière un peu mystérieuse, là, dans sa cuisine, une expérience de Dieu. Quel est le Dieu qu'expérimente Martin Luther King?
Pour exprimer, je crois, sa pensée, j'aimerais citer une phrase qui revient si souvent dans les chants noirs américains et souvent sous sa bouche aussi. C'est ce Dieu capable d'ouvrir une issue là où il n'y en a pas. Les Noirs disent « God can make a way out of no way ». Il est capable de l'impossible. C'est ce Dieu qui a accompagné ses pères et mères dans la sombre odyssée de l'esclavage. C'est ce Dieu, dira-t-il, qui a permis à son peuple d'entendre la question de Jérémie « Y a-t-il un baume en Galaad ?» d'entendre cette question jusqu'à la transformer en affirmation. Oui, il y a un baume en Galaad. Ce baume, c'est le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ. Et au fond, alors qu'il ne voyait dans un premier temps que le caractère émotionnel de sa tradition, il en découvre la profondeur, mais qui ne s'est jamais ou si peu exprimé de façon rationnelle dans des discours théologiques maîtrisés, dogmatiques.
Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praise, His praises ring. Glory in the highest, I'll shout and sing. Church, I'm standing. I'm standing on the rocks. We got to be born again believers here. Know what God can do. Can you bear witness and say, yes, I stand. Hallelujah. How many got that testimony? That you're standing on His promise.
every day of my life. Church, I'm standing on. I'm standing on the cross. I mean, oh God, will see you through a storm. Won't he see you through a storm? Hour by hour, standing on the promises, Lord, that can. How many know God can't fail? When
same brother Mike.
The howling storm of doubt and fear. Our sail sinks by the living word of God. Yes, we shall. How many know the church is going to prevail? For we're standing on the promise. I don't know what tomorrow is going to bring.
Nous quittons les Sensational Nightingale et leur Standing on the Promise pour retrouver Serge Mola et Serge Carrel. Ils évoquent l'évolution spirituelle de Martin Luther King, de son temps d'études à son engagement pastoral.
On a l'impression que dans la première année de sa vie, finalement, Martin Luther King est très marqué par une sorte de théisme, disons, une présence très forte du Dieu Père, du Dieu Divinité, et que finalement, par la suite, il découvre toute la profondeur d'un Jésus-Christ proche des pauvres, proche des souffrants, proche du peuple noir, quelque part.
C'est vrai qu'il y a une sorte d'affirmation théiste, Dieu au-dessus, Dieu qui contrôle, Dieu qui agit au cœur de l'histoire. La figure du Christ va être vraiment le visage humain de Dieu. Et au fond, c'était déjà le cas dans sa tradition, puisque les esclaves ont souvent lu la crucifixion au travers des pendaisons des leurs. Donc souvent on dira que Jésus a été pendu parce qu'on voyait d'autres être pendus. Et Jésus est du côté de celui qui souffre. Alors King reprend cela encore. Et là encore, il est immergé dans sa tradition qui donne non seulement expression à sa théologie, mais qui, je crois, la mûrit.
Est-ce que vous diriez qu'il développe à partir de ce moment-là une piété plus christique, plus christocentrique ?
Je crois qu'on a un regard très rationnel quand on dit cela. Je ne suis pas sûr que King aurait séparé si vite le Père, le Fils, l'Esprit, parce que l'Esprit, de toute façon, anime continuellement la communauté noire. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, en tout cas, que son chemin ressemble vraiment à celui du disciple qui devient un chemin étroit. Il emploie l'expression, il s'agit pour le disciple de porter la croix et il en prend peu à peu la mesure.
Finalement, au fil de ces années où King médite le message de l'Évangile, on perçoit qu'il prend de plus en plus au sérieux une manière toute concrète de prendre la croix du Christ sur lui, de porter quelque part le joug de l'Évangile, comme il est dit dans certains textes bibliques.
Au début, King est optimiste. Il estime que si, une fois que la ségrégation sera vraiment révélée, ses frères et sœurs chrétiens, blancs compris, avec lui voudront y mettre fin. Or, il se rend compte au fur et à mesure du temps qui passe que ça n'est pas si simple. Il va donc peu à peu quitter les voies de l'optimisme pour en venir à un regard plus aigu sur la réalité et ses difficultés. Et ce n'est peut-être pas par hasard qu'il utilisera moins l'expression du rêve auquel est fait allusion son discours de 63, et qu'il reprendra de plus en plus des expressions prophétiques, Amos, Ésaïe, Jérémie, et a souligné plus encore le parcours de Jésus.
Martin Luther King aborde la question de l'homme à partir de son expérience concrète, de son expérience de noir. Et c'est vrai qu'il vit dans une société qui est marquée par la ségrégation. Il est victime lui-même de la ségrégation. Alors qu'est-ce que cette expérience concrète entraîne dans sa vision de l'être humain, Serge Mola ?
Bien que King soit né dans une famille de la classe moyenne, il est vrai que comme toute sa famille, il est noir et par conséquent, il est d'un côté de la société. Il fait partie de ceux qui n'ont pas les mêmes pouvoirs, qui ne sont pas au pouvoir, qui sont jugés d'abord par la couleur de leur peau. Lorsqu'il est jeune, ses parents, ses grands-parents, quel que soit leur âge, sont encore appelés par leur prénom, par les blancs. Et il perçoit donc d'emblée que le noir est considéré dans son propre pays comme un être humain inférieur. Et cela le marque profondément, ce qui va le conduire, une fois qu'il réfléchit en pasteur, en théologien, à repenser au fond l'être humain et l'être humain devant Dieu.
Et là concrètement, qu'est-ce qu'il découvre à propos de cette singularité qui est la sienne ?
D'abord, via son église, il découvre que devant Dieu, il n'y a pas des noirs et des blancs, mais des êtres humains. Une petite anecdote, au fond, souvent des blancs qui vont dans une église noire soulignent l'accueil par les noirs, et cela les frappe, mais je crois que cet accueil est tout à fait particulier parce que le noir sait, et toute son histoire le lui dit, qu'il est quelqu'un devant Dieu. Et à l'époque de King, le seul lieu ou l'un des rares lieux où l'on est quelqu'un à part entière, c'est le lieu de l'église. Alors que le blanc, lui, est déjà quelqu'un avant d'entrer dans l'église. Pour King, l'être humain est non seulement dépersonnalisé, mais dépersonnalisé, cela veut dire qu'il ne répond pas à sa vocation, qu'il ne peut pas y répondre parce que tout un système l'empêche de le faire, et que si lui, noir, est considéré comme un sous-homme, l'autre, le blanc, rate aussi lui sa vocation puisqu'il se croit supérieur, puisqu'il est aveugle à l'altérité du noir. Il y aura d'ailleurs un fameux roman noir américain qui parlera du noir comme un être invisible, puisqu'il est toujours traversé par le regard du blanc.
Sans jamais être vu.
Sans jamais être vu, oui, exactement. Donc King, très sensible à toute cette dépersonnalisation, à toute cette haine qui est générée à l'égard de lui-même, avec du coup un faux regard sur l'autre, mais cela joue aussi dans l'autre sens, cette supériorité du blanc à ses propres yeux et le déni du noir, tout cela est au fond remis en question par la foi, par le statut que le croyant a aux yeux de Dieu.
Quelles sont les références théologiques qui permettent de développer ce propos égalitaire ?
Un des credos, enfin un des éléments du credo fondamental dans tout, derrière tout cela, c'est le fait que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et donc, que c'est pas l'être humain blanc ou noir, mais c'est l'être humain, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Et donc, prendre cela en compte, c'est porter un nouveau regard sur soi-même, sur l'autre et sur la relation entre les deux. Au point que King l'écrira, je ne puis être moi-même tant que mon prochain ne peut pas être lui-même. Ou par exemple, un écrivain remarquable comme James Baldwin dira, si tu ne connais pas mon nom, tu ne connais pas le tien. Comme pour dire que vraiment ma vie et ta vie sont liées. Le ta renvoie au blanc et au noir. Il y a une relation, une interdépendance extrêmement importante entre les deux. Ce qui touche l'un touche l'autre.
Il n'y a pas de véritable identité culturelle qui soit autonome, c'est-à-dire propre au blanc ou propre au noir. Elle se joue toujours en relation mutuelle.
Alors je crois que pour King, ce point est décisif. Effectivement, ça se joue toujours dans la relation avec l'autre. L'identité culturelle est importante, elle est peut-être quelque peu négligée dans un premier temps chez King, mais il va en découvrir peu à peu l'importance. Mais elle n'est pas lue, comme par exemple au sein des musulmans noirs, comme une identité qui pourrait s'autosuffire et du coup se refermer sur elle-même, jusqu'à demander la création d'un État noir, entièrement noir, et sans aucune relation avec le monde blanc. Cela, le King n'y croit pas du tout. Il ne le veut pas, il n'y croit pas, il croit au contraire à cette interdépendance jusqu'à probablement réfléchir en nouveaux termes à ce que signifie l'intégration. L'intégration pour lui ne veut pas dire devenir blanc dans un monde de blanc, mais rechercher avec l'autre, c'est-à-dire que blanc et noir, ou noir et blanc, auraient à rechercher un système permettant à chaque homme, à chaque être humain, d'être intègre vis-à-vis de lui-même, d'être honnête, d'être vraiment ce qu'il est appelé à être. C'est-à-dire noir s'il est noir, blanc s'il est blanc, avec son histoire et sa culture propre.